France Musique. Musicopolis. Février 1895, New York. Ce jour-là, Antonín Dvořák, directeur du Conservatoire de New York, inscrit deux mentions sur sa partition, commencée depuis le 8 novembre. D'une part, le mot « fin », et d'autre part, « Merci à Dieu, samedi matin à 11h30 le 9 février, jour de l'anniversaire d'Ottar Jek, son plus jeune fils. » Alors que l'année 94 a été peu féconde pour lui, cette nouvelle œuvre lui est venue facilement. C'est sa troisième saison en tant que directeur à New York, mais cette année, il a passé l'été en Bohême. Depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, Dvorak apprécie les grands espaces, les grandes étendues de nature. Mais il y a aussi le bruit et l'agitation qu'il n'aime pas. Plus le temps passe et plus la nostalgie de sa patrie le taraude. La nouveauté de ce pays d'adoption lui parle moins à présent. Certes, il est toujours sensible à l'enthousiasme des Américains, mais il perçoit aussi les faiblesses du système. De New York, Dvorak se rappelle la nature de Bohême, les grands arbres du parc de Visoka où il a passé l'été, le lac où il se plaît à voir des ondines et cette atmosphère de contes et légendes qui le font tellement rêver. Dvorak, qui a quitté Prague avec son épouse Anna et le petit Otakar il y a seulement 3 semaines, est encore empli du souvenir de son séjour, des retrouvailles avec ses enfants, sa famille, les paysages qu'il aime et toutes ces fêtes de village avec leurs chants et leurs danses. Il n'y a pas si longtemps, Dvorak refusait à son ami le violoncelliste Hanush Vihan de lui écrire un concerto, arguant que le violoncelle était un merveilleux instrument d'orchestre, mais tout à fait insuffisant pour un concerto avec son aigu nasillard et ses graves indistincts. Si un an auparavant, on avait dit à Dvorak qu'il écrirait un concerto pour violoncelle, il aurait été le premier étonné. Mais depuis, en mars 1994, il a entendu son collègue, professeur du conservatoire de New York, Victor Herbert, qui jouait lui-même son deuxième concerto avec le Philharmonique de New York, dirigé par Anton Seidel, le créateur quelques mois plus tôt de la Symphonie du Nouveau Monde. Après le concert, Dvorak est allé trouver Herbert en coulisses. Il l'a pris dans ses bras. Devant les membres de l'orchestre, il s'est crié « Famos, grands famos, splendide, vraiment splendide !» Concerto pour violoncelle de Victor Herbert, Dvorak a particulièrement apprécié l'équilibre entre le violoncelle et l'orchestre. Il a remarqué certains passages dans lesquels le violoncelle est mêlé à l'orchestre, mais sans être étouffé. Après le concert, il emprunte la partition, encore manuscrite, l'examine avec attention et la juge magnifique. Sur ce, il laisse passer la moitié de l'année 94, il termine sa saison new-yorkaise, rentre en Bohême, où il est accueilli comme un héros national, puis retraverse l'Atlantique avant d'entamer l'écriture de son propre concerto. Par rapport à la période où il a composé sa symphonie dite du Nouveau Monde, non seulement l'état d'esprit de Dvorak a complètement changé, mais aussi toute la conjoncture économique. Tout est moins facile à présent. Lorsque Janet Thurber, la fondatrice du Conservatoire de New York, a fait venir Dvorak à la fin de 1892, elle l'a attiré avec un contrat très avantageux. Avant de partir de Prague, le compositeur n'était pas pauvre, entre ses cours au conservatoire et la vente de ses partitions, mais venir aux États-Unis lui a apporté une aisance beaucoup plus grande. Et puis, le défi était important, aider les musiciens états-uniens à créer leur musique nationale. Dvorak va s'intéresser, découvrir, écouter toutes sortes de musiques, de mélodies, de rythmes qui vont infuser ensuite ses propres œuvres, au premier rang desquelles la symphonie bien nommée du Nouveau Monde et le quatuor non moins bien nommé américain. Et puis le compositeur trouve du plaisir à enseigner à ses élèves de New York. Leur enthousiasme est communicatif. Mais lorsqu'il revient de ses vacances en Bohême, à l'automne 1994, les États-Unis se sont enfoncés dans une grave crise économique, suite à la panique bancaire de 1993. Le mari de Mrs. Thurber, mécène qui finançait en grande partie le conservatoire, se trouve en grande difficulté et les salaires ne sont plus payés régulièrement. Dvorak a accepté néanmoins de revenir, Mrs. Thurber lui ayant fait comprendre à quel point sa présence était importante pour la musique américaine. Pendant qu'il travaille à son concerto, Dvorak reçoit des nouvelles alarmantes de sa belle-sœur Josefina, la sœur aînée de son épouse. Elle est malade du cœur, elle ne peut plus bouger de son lit et elle regrette le temps des vacances où elle a entendu sa musique. « Jamais plus rien ne me procurera de joie », écrit-elle. Thank you. Lorsqu'il avait 23 ans, en 1865, Dvorak a composé un premier concerto pour violoncelle, mais qu'il a laissé en plan et n'a même pas orchestré. Quelques jours plus tard, il composait un cycle de mélodies, Cyprès, qui chantait son amour pour une jeune fille de 16 ans à qui il donnait des leçons de piano, Josefina. Josefina ne lui rendait pas son amour, elle en a épousé un autre, tandis que Dvorak se mariait avec la sœur cadette de la jeune femme, Anna. Mais il a gardé pour l'aînée une tendresse particulière, et à l'annonce de sa maladie, en novembre 1894, il a introduit dans le mouvement lent de son deuxième concerto pour violoncelle une mélodie venue d'un lied qu'elle aimait particulièrement, « Lass mich allein »,« Laisse-moi à ma solitude ». Le 9 février 1895, donc, jour de l'anniversaire de son plus jeune fils, Dvorak met un point final à son concerto pour violoncelle. À peine 3 mois depuis les premières esquisses. En avril, il repart avec sa famille pour Prague pour y passer l'été. Il est censé revenir à l'automne pour une nouvelle saison à la tête du conservatoire de New York. Alors que Dvorak est rentré à Prague depuis quelques semaines, sa belle-sœur Josefina meurt de sa maladie de cœur. Très affecté, le compositeur remanie son concerto, en introduisant dans le final à nouveau la mélodie de l'adagio, celle du lied tellement aimé de Josefina. Au mois d'août, une première lecture de l'œuvre a lieu devant le compositeur. Hanusz Wihan, à qui il dédie la partition, est au violoncelle, avec les membres du quatuor tchèque dont il fait partie. À la demande de Dvorak, Wihan lui propose quelques modifications dans la partie soliste. Dvorak va en accepter certaines, notamment des alternatives qui rendent la partie un peu plus simple. En revanche, il va absolument refuser d'introduire une cadence virtuose dans le final. D'autant plus que Wihan voudrait la caser juste à la place de la mélodie en souvenir de Josefina. Dvorak est très ferme et presque fâché. Thank you. suite aux différends avec Vihan sur les modifications du concerto, Dvorak écrit à son éditeur Simrock. Je vous le donne seulement à la condition que personne, pas même mon ami Vihan, n'y fera aucune altération sans m'en informer et sans ma permission, et qu'aucune cadence ne sera ajoutée comme celle que Vihan voudrait pour le dernier mouvement. Je lui ai dit très nettement, le final doit s'achever progressivement, diminuendo, comme un soupir, avec des réminiscences des premiers et deuxièmes mouvements. Le solo s'apaise pianissimo, puis s'enfle à nouveau, et les dernières mesures sont purement orchestrales, l'ensemble de l'œuvre se concluant dans une atmosphère orageuse. Telle est mon idée, et je ne saurais y renoncer. Ce n'est malheureusement pas Vihan qui donnera la première, mais un violoncelliste britannique, Leo Stern, au Queen's Hall de Londres en mars 1896, avec Dvorak à la baguette, et avec grand succès. Vihan le jouera peu après. Le concerto s'est inscrit tout de suite au répertoire et ne l'a jamais quitté depuis. Quant à Dvorak, il ne retournera jamais à New York. Le final Allegro Moderato du concerto pour violoncelle en si mineur opus 104 d'Antonin Dvorak, Pierre Fournier au violoncelle avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Georges Sell. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Benjamin Vignal pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.